33 tout juste à Paris pour retrouver Julien Coquelroem.
Merci Edouard Dupénoit. RFI Matin La Suite, un nouveau journal dans 17 minutes et le point sur les droits de douane que Donald Trump va imposer pour trois pays, 25% pour le Mexique et le Canada, 10% pour la Chine et l'Europe en ligne de mire. On appelle Guillaume Nodin à Washington. À 6h, temps universel, un nouveau point également sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que face à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda, la navigation a été interdite sur le lac Kivu. Vous entendrez les conséquences sur le ravitaillement des populations. Au micro de William Bassimike. Et tout de suite les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Les joueurs africains animent le marché des transferts en football, côté masculin comme côté féminin.
Chez les dames, Merveille Kanjinga rejoint ainsi le Paris Saint-Germain, l'international RD congolaise, 24 ans aujourd'hui même, bon anniversaire, arrive en provenance du tout-puissant Mazembe. Chez les messieurs, c'est Amine Gouiri qui change de vestiaire. L'international algérien de Rennes s'est engagé avec l'Olympique de Marseille pour 4 ans et demi. Il débarque à l'OM juste avant la rencontre face à l'OL dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1, Lyon, club formateur de Gouiri.
En tennis, les éliminatoires de la Coupe Davis 2025 et le Bénin se frottent au groupe 2.
Auquel le pays vient d'accéder. Les Béninois démarrent ce samedi face à la Lettonie dans le cadre des play-offs. Premier à entrer en lice, Alexis Clégou, le vétéran béninois, 36 ans, affronte Robert Strombach, 407e mondial. Non classé lui-même, Clégou sait qu'il n'aura pas la partie facile.
C'est moi-même qui rentre sur le terrain contre un joueur professionnel, actif. On espère tous ensemble et moi-même pouvoir gagner ce match, ce qui pourrait nous mettre sur de bonnes bases pour la suite de la compétition. Ils sont bons, mais beaucoup moins d'expérience. Et je pense qu'on peut vraiment faire la différence à ce moment-là. Je pense que c'est une rencontre qui est abordable. On a un bon groupe, on a de l'expérience, on est chez nous. Et ce sont des éléments qui sont importants pour pouvoir jouer, oui, une équipe qui est forte. Je pense que c'est un 50-50, mais nous avons nos atouts pour gagner cette rencontre. C'est un objectif possible, je pense qu'on peut le réaliser. Maintenant, c'est le terrain qui parle. On est tous mobilisés pour ça, on est là pour ça. Et puis, on va faire en sorte de pouvoir monter dans cette zone.
Alexis Clégou avec Théophile Aza. Le deuxième simple opposera Patrick Agbopanzo et Daniel Tens. Plusieurs autres nations africaines seront en lice, d'ailleurs, dans ce groupe 2. Le Zimbabwe reçoit le Maroc. Duel entre l'Afrique du Sud et le Nigeria à Pretoria, pendant que la Namibie accueille Hong Kong à Windhoek. Dans le groupe 1, le Togo se rend à New Delhi pour se mesurer à l'Inde, pendant que l'Égypte, elle, est à Athènes pour affronter la Grèce. Hier, la Tunisie et l'Ukraine se sont neutralisés hier, un partout, avant le double prévu ce samedi.
Et on termine avec les sports de combat. Le combat principal de la soirée de MMA, les arts martiaux mixtes, organisé par l'UFC à Riyad aujourd'hui.
Israel Adesanya, une des légendes de la discipline, est face à son destin. Le Nigérian, ancien champion chez les moins de 84 kilos, affronte le challenger français Nassourdine Imavov. Du haut de ses 28 ans, Imavov veut passer un cap et se voit comme un potentiel candidat au titre dans la plus grande organisation mondiale de MMA. Adesanya, lui, ne rayonne plus comme avant et reste sur 2 défaites de suite. Le natif de Lagos n'aura pas le droit à l'erreur et ne sous-estime donc pas son adversaire.
Nassourdine Imavov, c'est le plus gros combat de sa vie et je sais qu'il va venir prêt pour l'affrontement. Donc c'est mon travail de le stopper dans son ascension et c'est ce que je vais faire. Ce gars est vraiment rapide, il est fluide, j'adore son style. Je veux vraiment tester ça. Il n'y a pas de pression sur moi, mais j'aime m'en mettre le moment venu parce que je suis Israel Adesanya.
Israel Adesanya avec Sofiane Amazi en combat à suivre aux alentours de 20h temps universel.
Antoine Grenier pour les sports, merci beaucoup. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale est aujourd'hui à la une, ces droits de douane imposés par Trump au Mexique, au Canada et à la Chine.
Le Washington Post n'y va pas par quatre chemins et parle d'une guerre commerciale mondiale engagée par Trump du jamais vu depuis des décennies. Si elles étaient mises en œuvre de manière permanente, poursuit le quotidien américain, ces mesures entraverait l'économie mondiale. Le président a reconnu que des tarifs douaniers aussi importants pourraient causer des perturbations temporaires à court terme aux Américains, mais il a ajouté « les gens comprendront ». Plus 10% de droits de douane pour la Chine, plus 25% pour le Mexique et pour le Canada, où le journal Le Devoir se demande quelles seront les conséquences pour l'économie canadienne. Le tableau n'est pas rose, la Banque nationale du Canada prévoit un recul de la croissance nationale de 6%. Au Québec, poursuit Le Devoir, 500 000 emplois dépendent des exportations vers les États-Unis. Et la Fédération des chambres de commerce du Québec estime qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises capables d'encaisser une hausse des tarifs de 25% à l'exportation.
Et Donald Trump pourrait ne pas s'arrêter là, Catherine.
C'est ce que rappelle Le Soir à Bruxelles, qui cite les déclarations du président américain à des journalistes qui le questionnaient dans le bureau ovale. Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique? Absolument, je vais le faire. L'Union européenne nous a très mal traités. De son côté, le Temps en Suisse remarque que les taxes douanières de Donald Trump font baisser le dollar canadien et le peso mexicain, ce qui devrait renchérir le dollar et contrecarrer les plans de Trump. Des mesures protectionnistes, ajoute le Temps, auront plusieurs inconvénients pour les Américains. Elles rendront plus difficile le développement des exportations, la réindustrialisation des États-Unis et la réduction du déficit public.
À lire également ce matin dans la presse internationale, le retour de nombreux Gazaouis chez eux.
L'Orient Le Jour publie le carnet de bord d'une traductrice de 25 ans, Nour El Yacoubi, qui, nous dit le quotidien francophone libanais, n'a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre et qui raconte « Gaza semble revivre, les rues vides pendant des mois sont de nouveau remplies de familles qui reviennent, de charrettes pleines d'effets personnels et d'enfants qui courent partout. Mais la joie des retrouvailles s'accompagne de nouvelles gageures. » Nour El Yacoubi raconte ainsi que les gens ont du mal à se nourrir. Dans les centres d'aide, de longues files d'attente se forment pour obtenir du pain, de l'eau et des couvertures. Quant au logement, la situation est plus que précaire, comme l'explique la jeune femme. Des tentes ont été érigées sur des terrains vides, tandis que le bruit des marteaux et des scies emplit l'air, les familles réparant leur maison ou ce qu'il en reste. Pour beaucoup, dit-elle, le retour est synonyme de perte de maison, de souvenirs et d'être cher.
Et de son côté, Haaretz évoque la libération prévue aujourd'hui de 3 nouveaux otages israéliens.
Yarden Bibas, Ofer Calderon, franco-israélien, et Kiss Samuel Siegel doivent être libérés aujourd'hui. Haaretz s'attarde sur le parcours de chacun d'eux. Quelle était sa vie avant le 7 octobre où il travaillait? À quelle époque il a rencontré sa femme? C'est le cas notamment pour Kiss Samuel Siegel, 65 ans, agriculteur dans un kibboutz, marié depuis 43 ans à Aviva, avec laquelle il a eu 4 enfants. Aviva a aussi été prise en otage, mais elle a été libérée après 51 jours au premier accord du cessez-le-feu. Et depuis sa libération, raconte Haaretz, elle a parcouru le monde pour parler de son mari, du déchirement, de leur séparation et des abus qu'elle a subis et vus aux mains des ravisseurs. Le quotidien israélien publie une vidéo où on la voit, quand elle a appris la libération de son mari, riant et pleurant à la fois et serrant l'une de ses filles dans ses bras.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
À son tour, Paul Biya s'est vu remettre cette semaine le rapport des chercheurs sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun de 1945 à 71. Emmanuel Macron peut-il, avec cette quête historique qu'il a initiée, espérer se rallier les opinions africaines?
Cette initiative dénote un courage politique qui aurait pu lui valoir en effet l'indulgence d'une Afrique scrupuleuse sur les crimes et violences de l'ère coloniale. Mais certains héritiers politiques de Ruben Niobe contestent à la France le droit d'initier un tel projet, car pour eux, elle est le bourreau. Au-delà des réserves de certains Camerounais, c'est Emmanuel Macron lui-même qui altère l'impact de son initiative, comme avec l'Algérie, avec le Rwanda ou même le massacre de Tiaroy, chaque fois sans recevoir en retour la gratitude espérée. Probablement parce que nul ne comprend pourquoi certains, et par exemple pas Madagascar, où l'on a chiffré à près de 90 000 morts la répression de la révolte de 1947. Les courages parcellaires n'ont jamais remplacé une politique. alors qu'il s'achemine vers la fin de son second mandat, rien ne laisse espérer qu'Emmanuel Macron aura les moyens d'engager et de faire aboutir d'autres initiatives similaires partout où la violence coloniale a laissé de vivre en cœur. Il s'est parfois contenté de faire plaisir à tel ou tel pouvoir dans quelques pays, oubliant de marquer son temps avec une politique valable pour tous. Il peut donc difficilement espérer voir l'histoire le retenir comme le président qui aura vidé les contentieux coloniaux de la France.
Il ne manquait pourtant pas de volonté vis-à-vis de l'Afrique.
Entre Emmanuel Macron et l'Afrique, ça aura été un perpétuel malentendu, avec certes quelques initiatives dont aucun de ses prédécesseurs n'avait eu le courage, mais par les insuffisances de sa méthode, lui-même anéantissait l'impact de ses mesures. Ainsi, de la restitution des œuvres d'art pillées à certains peuples durant la colonisation et dont quelques-uns attendent toujours leur part. Ainsi, du démantèlement de gré ou de force des bases militaires, de la suppression du compte d'opération des banques centrales de la zone franc auprès du Trésor français et de bien d'autres mesures courageuses inédites depuis la fin de la colonisation. Ces audaces éparses ne lui vaudront pas la sympathie des peuples africains tant qu'elles ne seront pas scellées par une politique claire et durable.
En somme, la France ne peut espérer la compréhension de la jeunesse africaine en traitant séparément la violence coloniale.
Tous les cas particuliers s'inscrivaient dans une politique globale. D'ailleurs, certains acteurs coloniaux, pour avoir fait la preuve de leur brutalité dans une colonie, étaient souvent envoyés sévir dans d'autres. L'histoire des peuples africains est bien trop imbriquée pour espérer la traiter efficacement en pièces détachées. Savez-vous, par exemple, que l'officier français qui orchestra le coup d'État qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio en 1963 au Togo était auparavant un acteur central de la répression des maquis de l'UPC au Cameroun? Se rappelle-t-on que les soldats à l'origine de ce putsch sanglant revenaient d'Algérie après les accords d'Évian? Sait-on seulement que la rancœur de ces soldats venait du refus de Sylvanus Olympio de les intégrer dans l'embryon d'armée du Togo sous prétexte qu'ils étaient partis d'eux-mêmes s'enrôler volontairement dans l'armée française à Ouida, au Bénin, pour combattre les Algériens qui se battaient alors pour leur indépendance pendant que les Togolais, eux, luttaient pour leur propre indépendance? Chaque peuple aspire à comprendre les conditions déterminantes dans lesquelles s'est noué son destin. L'enjeu pour la France est d'inspirer durablement confiance à des peuples héréditairement dans le doute quant à sa sincérité. Cela suppose une politique qui ne varie pas au gré des circonstances et des rapports que le chef de l'État français peut entretenir avec tel ou tel de ses homologues. Bref, une politique qui survive au temps et aux hommes.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Bientôt 6 heures en temps universel et sur la radio du monde. Avant le journal, un peu de musique avec un groupe français guadeloupéen du blues rock créole, bien connu des amateurs. Delgrès et son 3e album Promis le ciel avec la chanson Pour vous qui est dans la sélection du mois d'RFI. Bobo Delgrès et le troisième album Promis le ciel. La sélection du mois d'RFI, vous savez où la retrouver, www.rfi.musique.fr. Et le journal dans un peu plus d'une minute à présent. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, est plongée dans une crise profonde. Confrontée à une panne de croissance, à une activité au ralenti, les patrons sont en colère à quelques semaines d'élections indécises. Nous analyserons les raisons de ce marasme et les conséquences pour l'ensemble du continent.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site rfi.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.